Sur l'analogie au dard, on a commencé par un exposé très détaillé de Laurent Vivier sur le livre de Hofstadter et Sander. Ma première réaction, ça a été un peu d'exaspération sur le thème, mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça en science. C'est clair que l'analogie ne va pas permettre d'expliquer tous les processus de conceptualisation. Et donc, il faut aller regarder d'un petit peu plus près. Après quoi, les positions sont un peu modifiées, enfin, un peu nuancées, disons. En tout cas, l'idée, c'est que je vais essayer de parler d'exemples variés en sciences, mais surtout en mathématiques, pour voir. Si analogie il y a, comment elle fonctionne, et donc d'où le plan qui est là. Donc en première partie, ça sera juste un petit résumé des interrogations qui sont des interrogations de départ, en quelque sorte. Ensuite, un deuxième point, j'insisterai sur la catégorisation ou l'invariance en science, en essayant de montrer. En quoi c'est pas forcément la même chose, sur des exemples. Ensuite, je dirai un petit mot sur l'usage de l'analogie dans l'histoire des sciences et des mathématiques, ou en tout cas l'usage de l'analogie par les historiens des sciences et des mathématiques. Après, je parlerai des dangers des analogies en maths et un petit peu en physique, puis sur le rôle positif des analogies en mathématiques, j'ai un bon nombre d'exemples. Et puis, je parlerai d'analogie heuristique, parce qu'on sait que l'heuristique est quelque chose qui a préoccupé les mathématiciens depuis Polya et d'autres. Et puis, je terminerai par un point un petit peu de divergence et un point d'interrogation. Donc, je vais commencer par les questions qu'on s'est posées, enfin que moi, en tout cas, je me suis posé assez rapidement. Est-ce que l'analogie et la catégorisation peuvent être des explications universelles du phénomène de conceptualisation en sciences et en mathématiques? Quelle réalité historique y a-t-il de l'usage de l'analogie, au-delà des commentaires des historiens? Quel type d'efficacité pour l'analogie? Là, il s'agit de rentrer plus dans des exemples et de voir comment ça fonctionne, donc quel mode de fonctionnement ça peut avoir. Et enfin, quel danger de l'analogie, mais là on en a déjà parlé, j'en reparlerai aussi. Alors, la première partie que je vais regarder, c'est la catégorisation ou invariance en sciences, où je vais essayer de donner des exemples où en fait ce qui semble plutôt piloter les scientifiques, c'est la recherche d'invariants. Alors voilà un premier exemple, je dis les scientifiques, mais ça peut être aussi des jeunes enfants. Que devient l'aire du disque quand le rayon double? Je vais voir que là-dedans, je vois vraiment pas comment on peut catégoriser quoi que ce soit, mais que par contre, il y a un invariant qui va apparaître. Alors voilà, alors, à condition qu'il veuille bien, voilà. Donc si on demande que devient l'aire du carré quand on double son côté, pas de problème, comme un carré de côté double se coupe immédiatement en quatre carrés, la réponse que c'est quatre fois est immédiate. Par contre, quand il s'agit du disque, ben évidemment, c'est difficile de couper le disque en quatre disques, ça ne marche pas, et il y a un taux de succès beaucoup plus faible chez les enfants. Et alors, par contre, si on leur suggère de faire coïncider les deux figures, celle du haut et celle du milieu, on voit apparaître très nettement dans le deuxième le dessin en bas à droite, enfin à ma droite, on voit apparaître les quatre cercles en même temps que les quatre carrés. Et ce qui va apparaître ici, donc je résume un petit peu, donc ici je répète ce que je viens de dire, et puis là, ce qui apparaît, c'est qu'il y a un invariant qui est le rapport entre l'aire du disque et l'aire du carré circonscrit. Et cet invariant paraît tout à fait naturel aux enfants, simplement il n'apparaissait pas, et dès qu'on fait l'opération qu'on a vue au-dessus, à savoir de superposer les deux types de figures, mais ça varie en pareil, et les élèves admettent effectivement que l'aire du 10 va être multipliée par 4. Donc c'est l'invariant, en fait, qui va intervenir. Alors, deuxième point, la forme des calculs. La forme des calculs en mathématiques, c'est quelque chose de fondamental, et c'est une chose qui permet des conceptualisations formelles, et c'est vraiment un invariant, qui n'est pas universel, hein. Je veux dire, c'est pas, la formalisation ne se fait pas uniquement par forme des calculs, mais c'est l'un des aspects de la formalisation. Alors, je vais donner deux exemples, qui sont un petit peu, enfin, l'un est plutôt historique et l'autre plutôt didactique. Le premier concerne l'intégrale. À l'origine, l'intégrale, ça n'existe pas. Et ce qu'on fait essentiellement, c'est des mesures de grandeur, des aires, des volumes, des choses comme ça. Et pour ça, on découpe en petits morceaux, assez naturellement, et on voit apparaître des sommes dans lequel apparaissent la somme des carrés des entiers, ou bien la somme des entiers, ou bien la somme d'autres expressions, 1 sur 3 plus k sur n au carré, par exemple, pour k variant de 1 à n. Et on voit qu'il y a une forme qui apparaît, c'est les entiers au carré, ou les entiers sans carré, ou des 3 plus k sur n, 1 sur au carré, et on voit apparaître quelque chose qui est une sorte d'invariant pour plusieurs mesures de grandeur, parce que justement, si on regarde le volume d'un tronc de cône de révolution, ou si on prend l'aire de la spirale d'Archimède, on tombe sur les mêmes sommes sigma des K2. Et en multipliant des exemples de cet ordre, on voit apparaître, alors là, ça relève peut-être de la catégorie, mais je crois vraiment ce qui apparaît comme invariant là-dedans, c'est l'exposant, et on voit apparaître quelque chose qu'on peut qualifier d'unification de la logique, mais aussi en voyant apparaître l'invariant qui est ici l'exposant, on peut passer au concept d'intégrale qui adhère sur la courbe des fonctions qui sont ici. Alors, deuxième exemple qui est de nature didactique et que j'ai utilisé. L'axiomatique des espaces vectoriels est quelque chose qui, en première année d'université, passe assez mal. Et on a essayé avec les étudiants de faire que les étudiants dégagent les règles de calcul dans des équations linéaires variées, dans des domaines assez différents. Donc, par exemple, une équation linéaire très simple où l'inconnu est un polynôme, un coefficient rationnel, un autre où c'était un vecteur de R3, et un autre où c'est une fonction. Et avec les étudiants, qu'on fait travailler en petits groupes de 4, on arrive assez rapidement à dégager des règles de calcul qui font pour résoudre effectivement les équations. On fait passer dans un autre membre, on change le signe, enfin, toutes les règles algébriques habituelles. Et le type de nombre, parce qu'on a pris des exemples un petit peu différents, tantôt c'est des rationnels, tantôt c'est des réels. Et dans le cours qui suit, donc c'est typiquement des TD qui vont arriver avant le cours, qui préparent, on dégage les axiomes de l'espace vectoriel avec une réflexion sur, vous avez trouvé, en général les étudiants trouvent, dans mon souvenir, une quinzaine de règles de calcul. On explique un petit peu pourquoi c'est absurde d'avoir 15 règles de calcul, parce que bien entendu, chaque fois qu'il faut vérifier que ça marche, c'est infernal. Et si on pouvait les ramener à très peu, les autres déduisances de ce petit nombre, ça serait plus simple. Donc on fait un discours autour de l'axiomatisation. Alors, en un certain sens, on peut parler d'analogie. Mais moi, j'y vois plutôt une idée d'invariance. C'est-à-dire, les règles de calcul sont les mêmes. C'est un invariant de ces trois situations. Alors, en physique, il y a évidemment des exemples classiques. Par exemple, l'énergie, c'est clair que le concept d'énergie, en particulier d'énergie mécanique, ne peut se concevoir parce qu'on peut transformer l'énergie cinétique en énergie potentielle et réciproquement. Et que si on n'a pas cette idée d'invariance ou de conservation, on aura beaucoup de mal à voir apparaître le concept d'énergie. Je vais donner, bon, Vanda nous a cité un exemple où c'est au contraire des différences qu'on cherche, c'était l'activité de Mendeleïev quand il a établi son tableau. Mais je vais redonner un cas où c'est encore plus important, où ce qu'on veut conserver, ce qu'on veut garder comme invariant, c'est un principe. Alors, voilà un exemple classique. C'est une différence de pensée d'Einstein, assez célèbre, qu'il a raconté lui-même. On s'imagine être dans un astronef qui vole presque à la vitesse de la lumière et qu'il y a un passager qui se regarde dans un miroir dans l'astronef. Et quand on atteint la vitesse de la lumière, bah, si on conserve les compositions des vitesses au sens habituel, bah, sur le dessin du bas, là, j'ai essayé de schématiser un œil qui regarde dans le miroir. Le miroir fuit dans un sens avec la vitesse de la lumière. La lumière qui arrive sur le miroir repart vers l'œil à la vitesse de la lumière. Et donc, normalement, la somme est zéro. Et l'image qu'on a de soi dans le miroir devrait disparaître. Et du coup, ça contredit un principe de relativité galiléenne qui est qu'on n'a pas de moyen dans un système en translation uniforme de savoir à quelle vitesse on va. Et comme Einstein voulait absolument conserver cette loi, bah, ça lui a amené, enfin, c'est ce qu'il dit, bien entendu, après on réécrit ces choses, à modifier la loi de composition des vitesses. Alors, la deuxième partie, enfin le 3, va consister à discuter un petit peu l'analogie et l'histoire des mathématiques. On avait étudié le livre piloté par Marie-José Durand-Richard sur l'analogie dans l'histoire des sciences. Et moi, j'avais en particulier étudié un chapitre de Husserl. Et ça posait des tas de problèmes parce qu'on ne voyait pas très bien si les analogies que Husserl voyait dans certains développements historiques étaient des analogies pour les mathématiciens qui avaient fait ce développement historique ou étaient une analogie vue par Husserl dans le développement historique, c'est-à-dire une recomposition dans le cadre d'une histoire assez récurrente. Knobloch a consacré un chapitre entier dans un livre sur Willemin à cette idée. Et il n'a pas tout à fait l'approche de Husserl, parce que lui se cantonne pratiquement, presque, à des mathématiciens qui disent qu'ils ont été pilotés par des analogies. On peut imaginer que c'est... puisque les auteurs eux-mêmes ont vu l'analogie, c'est probablement qu'ils ont été effectivement pilotés par ça. Je crois qu'il faut faire attention quand on parle d'analogie dans les sciences à pas confondre l'analogie vue par l'historien, qui est quand même assez fréquent, en particulier quand on fait une histoire à la Bourbaki, c'est une histoire très très récurrente qui est entièrement pilotée par l'état actuel et qui est très structuraliste. Il se trouve que dans un nombre de cas, par exemple des cas cités par Husserl ou bien par Knobloch, on peut imaginer d'autres explications de nature épistémologique ou didactique, en un certain sens, c'est-à-dire par des activités qui mobilisent d'autres ressorts de la conceptualisation. Alors je vais prendre deux exemples. L'exemple de Bombelli créant les nombres complexes. Alors on a beaucoup vu ça comme, ça a été beaucoup décrit comme une analogie, Bombelli transportant aux nombres complexes les règles de calcul qu'on avait sur les nombres réels. Quand on regarde de près ce que fait Bombelli, il se trouve que j'ai travaillé avec un historien de Rennes qui a beaucoup consacré de temps à Bombelli et qui l'a traduit même beaucoup. On s'aperçoit que c'est pas vraiment ça qu'il fait. Pour la bonne raison, il insiste lui-même sur le fait que les règles de calcul sont nécessaires. Et nécessaires non pas pour qu'elles ressemblent à celles qu'on a sur les nombres réels, mais nécessaires pour faire ce qu'il veut faire. C'est-à-dire résoudre l'équation du troisième degré x3 égale 15x plus 4. Et ce qui est tout à fait intéressant là-dedans, c'est que cette équation, il connaissait évidemment sa racine évidente qui est x égale 4. Et elle lui servait d'illustration, en quelque sorte. Mais il fallait, en appliquant les règles de calcul de Cardan, à un moment donné, il tombait sur l'expression 2 plus racine de moins 121, bon, ce qui évidemment a été embêtant, parce que racine de 121, ça n'existe pas, mais il voulait quand même continuer le calcul jusqu'à trouver sa racine. Et s'il veut trouver sa racine compte tenu de la formule de Cardan, il fallait qu'il ajoute 2 plus quelque chose et 2 moins quelque chose pour trouver 4. Et donc sa racine, son racine cubique devait être de la forme 2 plus petit a fois racine de moins 1. Et une fois qu'on a décidé ça, et bien on trouve tout de suite les règles de calcul à faire sur le cube d'un nombre complexe pour arriver à trouver le résultat. Autrement dit, on construit un concept calculatoire qui est nécessaire pour résoudre et parce qu'on veut qu'il donne tel résultat plutôt que d'être piloté par une idée très générale. On va faire sur ces nouveaux nombres les mêmes calculs que sur les nombres qu'on connaissait déjà. Le deuxième exemple, c'est le fameux calcul parallèle de la somme des inverses des carrés des entiers, où il y a une interprétation qu'on a, j'ai trouvée chez Ozel et aussi chez Knobloch, qui dit Euler transfère une règle pour les équations algébriques. Alors la règle, c'est quand on a une équation algébrique et un polynôme en x égale 0, la somme des racines, on sait l'identifier avec les coefficients du polynôme. Il le transfère à l'aide d'une analogie aux équations qui ne sont pas algébriques. Mais quand on regarde de près les écrits de l'air, c'est pas si simple, parce qu'il écrit vraiment un polynôme. Voilà le polynôme, entre guillemets, qu'il écrit, et l'équation, c'est en l'égalant à 0. Et c'est un polynôme qui s'arrête au degré n, donc c'est vraiment un polynôme, seulement il ajoute pour n infiniment grand. Et après, il fait des calculs en écrivant, gardant toujours son entier n écrit, mais on dit toujours que c'est infiniment grand. Et donc, en fait, il ne fait pas une analogie. Il travaille sur des polynômes, il reste dans les polynômes, mais avec un degré infiniment grand. Et évidemment, ce qui a piloté, à mon avis, son activité, c'est qu'à l'époque, il y avait un usage, une pratique des nombres infiniment grands et des nombres infiniment petits, et qu'il a utilisé, on pourrait dire sans vergogne, mais que ça marchait très bien, et que c'était ça dont il avait besoin. Alors, parmi les différentes manières de formaliser en mathématiques, il y en a une. Donc, on en reverra tout à l'heure d'autres qui, à mon avis, utilisent beaucoup plus l'analogie. Mais il y en a une qui est la formalisation d'une idée commune qui est mal formulée. Alors, par exemple, Euler avait démontré une certaine formule de l'air, la somme du nombre des faces, du nombre des sommets, moins le nombre des arêtes est égal à 2, pour des polyèdres, avec des faces, des sommets et des arêtes. Et quand on regarde l'histoire de la question quels sont les polyèdres pour lesquels on peut appliquer la formule de l'air, on s'aperçoit que l'idée naïve de polyèdre qu'on a, c'est-à-dire un objet géométrique, là, comme ça, que tout le monde voit bien, on voit bien, tout le monde sent ce que c'est qu'un polyèdre, ça ne marche pas. Et on fabrique des tas de contre-exemples à la formule de l'air en prenant des polyèdres plus ou moins bien faits. Donc c'est extrêmement bien raconté dans le livre de Akatos, Preuve et Réfutation. Et j'ai regardé le livre, on n'y voit jamais le mot analogie. C'est-à-dire les moteurs pour arriver à une formalisation de la notion de polyèdre en théorie des graphes qui va permettre de démontrer la formule de l'air ne se fait pas par des analogies, elle se fait essentiellement par cet objet naïf, on lui donne des coups de pied en quelque sorte en faisant apparaître des tas de contre-exemples et en définitive c'est l'ensemble des contre-exemples qui va permettre de développer une idée formelle de polyèdre qui va permettre de démontrer le théorème. Donc là je crois que c'est le contre-exemple dont je parlais ce matin est assez clair quand on lit le livre de la 14. Alors, je vais donner quelques dangers des analogies. Alors, pour les mathématiques, il y en a à tous les niveaux, en fait, des mathématiques. Hein. Donc, la multiplication grandit, on l'a vu, on transfère les règles de calcul des nombres entiers aux nombres décimaux. La comparaison et le traitement des nombres décimaux eux-mêmes, on peut avoir des tas de problèmes avec les analogies. Quand les élèves passent de la dimension 2 à la dimension 3, ça ne va pas de soi d'étendre la notion de parallélisme. C'est-à-dire, si on reste totalement analogue à la dimension 2, on dit des droites ne se coupent pas, et malheureusement, ça ne marche pas. Bon, on connaît tous les avatars des dangers du passage des sommes finies aux sommes infinies. Puis je donnerai, alors je vais montrer ces exemples, c'est peut-être le plus simple. Donc ça, j'ai déjà dit. Alors, il y a toute une entrée ou toute une conception du nombre décimal qui est d'ailleurs parfois développée dans l'enseignement, pas en France. Mais moi, je l'ai vu développer, par exemple, au Brésil. Qui est de considérer un nombre décimal comme un couple d'entiers séparés par une virgule. Et alors, ça conduit à des erreurs assez graves. Par exemple, 3,2 plus 3,11, ben, ça fait 3,13. Parce que 2 plus 11 égale 13, bien sûr. Ou 3,7 est plus petit que 3,14, puisque 7 est plus petit que 14. 4,18, c'est le successeur de 4,17. C'est assez naturel. Et bon, tout ça, c'est un certain nombre de réflexes qui proviennent de l'analogie entre un nombre décimal et un couple d'entiers. Bon, j'ai déjà parlé des droites parallèles. Alors voilà un autre exemple, à un niveau un peu plus élevé. Quand on a défini l'intégrale de a à l'infini d'une fonction sur d'une variable par un procédé de limite de a à grand x quand x tend vers l'infini, ben on peut être tenté de faire la même chose pour l'intégrale double dans le plan. Et manque de peau, que vous preniez un disque de plus en plus grand ou que vous preniez un carré de plus en plus grand, ben ça ne marche pas. Il y a des braves fonctions continues pour lesquelles la limite ne sera pas la même selon la forme du truc de plus en plus grand. Et donc, la notion d'intégrale généralisée par intégrale double est assez malvenue. Ah, du blanc. Alors, un petit mot maintenant sur la physique, mais là, je vais parler sous le contrôle de Wanda et d'André. Je ne reviens pas sur le circuit électrique, Wanda nous en a parlé. Je vais parler de un des problèmes qu'on rencontre beaucoup avec nos étudiants de première année, c'est que l'addition des vecteurs, et c'est surtout celle-là qu'on fait en physique, parce qu'on a en permanence des forces, des champs, des vitesses, des accélérations, qui sont toutes des grandeurs vectorielles, eh bien, il y a une tendance très forte à additionner les vecteurs comme on additionne des scalaires. Alors voilà un exemple qui est assez spectaculaire, qui était imaginé par Marc Legrand. On a un jean, vous voyez comment il est suspendu. Marche bien, oui. Donc d'un côté c'est un point fixe, de l'autre côté c'est une poulie avec un poids suspendu. On dit que le poids du jean est de 3 kg, il est mouillé. Et on propose à un public, je dis bien, de doctorants en sciences. Donc des matheux, des physiciens, des chimistes, éventuellement des sciences de la vie. De discuter, de voter sur le poids T qu'il faut mettre pour que le jean ne traîne pas sur le sol. Et on leur donne des choix. On leur donne des choix de poids, 1,5 kg, 3 kg, 6 kg, je parle en kilos, hein, je suis désolé, 20 kg, 40 kg, 100 kg. Et année après année, parce que cette situation a été faite vraiment de très nombreuses fois avec les doctorants, 70% des votes se concentrent sur les trois premiers choix. C'est-à-dire pratiquement comme si on allait simplement additionner la moitié du poids du jean ou le poids du jean entier pour compenser, à la rigueur le double, mais bon. Et 20% seulement sur les trois derniers choix, c'est-à-dire un poids qui n'est vraiment pas de l'ordre de grandeur du poids du jean, avec 10% qui se... Et on voit apparaître très nettement l'idée que Bon, on va additionner les forces comme on additionne des nombres scalaires, en fait. Hein. Bon, et là, je passe sur la suite de la discussion avec les doctorants, qui est assez riche, et qui leur fait prendre conscience qu'effectivement, automatiquement, ils ont tendance à additionner comme des scalaires plutôt que comme des vecteurs. Bon, alors, l'analogie en physique, à mon avis, elle est beaucoup plus redoutable qu'en mathématiques, je pense, parce que il faudrait discuter un petit peu de l'analogie dans la physique, par exemple, ou les sciences, en rapport avec la pratique courante, et donc avec ce que disait Bachelard de cette chose. Je pense que, quand même, Bachelard a été confirmé des tas de fois par les didacticiens de la physique, et qu'en particulier, passer du qualitatif au quantitatif est un élément essentiel en physique pour identifier les grandeurs en jeu, pour parler de leurs mesures et pour parler des relations entre elles. Alors, je vous donner deux exemples classiques avec des transparences, un plus simple. D'abord, le sens commun habituel dit que le mouvement est lié à la force. Évidemment, ce n'est pas vrai. Peut-être pour faire démarrer un mouvement, certainement. Mais pour maintenir un mouvement, on n'a pas besoin de force. Et du coup, la force est dans la tête des gens liée à la vitesse et non pas à l'accélération. Alors, il y a des exemples classiques, je vais les montrer. Exemple classique, par exemple, on lance un ballon en l'air, bon, un petit peu décalé pour que ça décrive une belle parabole, et on demande aux étudiants de tracer la force exercée sur le ballon à différents points de la parabole. Et on voit très souvent le dessin qui est là, c'est-à-dire les flèches représentant la force sont collinaires aux vitesses, aux différents points, alors que bien entendu, il y a une seule force qui est là, c'est la force de la pesanteur, qui est verticale et dirigée vers le bas, et pas du tout dans le sens de la vitesse. Un deuxième exemple, c'est l'exemple des poulies. Je suis désolé pour la forme de mes poulies. J'ai eu un problème d'échelle. Elles sont un peu ellipsoïdes. Deux poulies absolument identiques, qui sont accrochées au mur. Et puis d'un côté, vous tirez avec une force constante de 4 kg, de l'autre côté, vous mettez un poids de 4 kg, et puis vous demandez quelle est la poulie qui, au bout de quelques secondes, tourne le plus vite. L'analogie la plus naturelle fait répondre évidemment qu'elle tourne à la même vitesse. Et malheureusement, ça ne marche pas. Donc là, c'est typiquement... Alors, on peut discuter après de quel type d'analogie il s'agit, quelle est sa profondeur, etc. Voilà un autre exemple qui est assez spectaculaire, je trouve. Vous voyez, vous prenez un pendule qui peut osciller autour de son point d'attache, qui est fixé dans un cadre, et puis vous faites tourner le cadre. Alors, naturellement, on se dit, ben oui, dès que ça tourne, le pendule va s'écarter de sa position d'équilibre. Et pourquoi on se dit ça ? On se dit ça parce qu'on a en tête des tas d'exemples analogues dans la vie courante. Le plus simple, c'est le manège. On a un manège qui tourne et puis on a des nacelles suspendues autour du manège. Et dès que le manège démarre, les nacelles s'écartent, évidemment. Et dans le cas qui est là, ce n'est pas du tout vrai. Parce que l'équilibre où le pendule reste vertical est un équilibre stable. Tant que la vitesse est inférieure à une certaine vitesse limite, et le pendule reste vertical. Alors, bien entendu, c'est un exemple très théorique, parce que dès qu'on imagine que l'axe de suspension du pendule est légèrement excentré par rapport à l'axe de rotation, eh bien, ça ne reste plus vrai, le pendule s'écarte tout de suite. Donc, dans la pratique, le pendule s'écarte tout de suite. Mais dans l'exemple théorique, il ne s'écarte qu'après une certaine vitesse. Alors, je vais passer maintenant à des rôles positifs de l'analogie. Alors, j'ai trouvé une citation de Banach, qui est une référence pour les mathématiciens, évidemment. Je vous laisse lire, bien que ce soit en anglais élémentaire. Donc pour lui, c'est clair. Je ne suis pas sûr que c'était une boutade de Banach aussi, de penser de façon profonde. C'est trop tard pour lui demander. Voilà, je vous laisse lire. Et ça veut dire qu'il imaginait qu'il y avait un gros rôle pour les analogies en mathématiques. Alors on va voir un petit peu effectivement des exemples. Un exemple que je ne vais pas détailler, mais c'est clair que le concept de fonction tel qu'il est enseigné par exemple en classe de 3e est a priori totalement aberrant par rapport à l'histoire des mathématiques, c'est-à-dire qu'on balance des graphes et on dit aux élèves une fonction c'est un graphe. Bien entendu, historiquement ça n'a jamais été comme ça. Une fonction c'est d'abord quelque chose qui et un graphe en particulier, c'est quelque chose qui permet d'interpréter ou de rendre compte ou de représenter des dépendances et des covariations entre des grandeurs. C'est quand même ça d'abord. Bon, et évidemment, ça veut dire que après un certain nombre d'exemples où on a des grandeurs qui varient, qui covarient, qu'on essaie de représenter une variation par des graphes, on peut arriver à la notion de fonction raisonnable. Et donc on peut dire qu'il y aura analogie entre toutes ces situations de covariation de grandeur. Alors, un usage de l'analogie en résolution de problèmes. Alors, je vais donner un exemple qui correspond un petit peu à un des thèmes qu'avait développé Sander, je ne sais plus si c'est dans le premier livre ou dans le deuxième, qu'on fait une analogie que lorsqu'on a une théorie un peu plus générale qui va recouvrir ce qu'on appelait parfois jadis la source et la cible. Donc on cherche à trouver toutes les suites récurrentes définies par un plus 1 égale an, un plus bn. An et bn sont deux suites données et on cherche toutes les suites un qui vérifient ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, d'abord, il faut reconnaître que c'est une équation linéaire portant sur la suite un. Donc, on aura déjà une petite idée de linéaire, c'est-à-dire qu'on a un petit peu, quelque part, vu l'équation linéaire générale T de U égale V dans des espaces vectoriels. Alors, on sait que dans ce cas-là, il faut d'abord résoudre l'équation sans zéro membre T de U égale 0. Donc, on le fait très bien pour la suite un, pas de problème. Et puis après, on sait qu'il faut... Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qui me reste? D'accord. Je vais essayer de voir si ça rentre. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est trouver une solution particulière. Et il se trouve que dans le modèle général d'équation linéaire, on a plusieurs théories dedans, et dont une que les étudiants connaissent déjà, qui est l'équation différentielle linéaire, dans laquelle il y a une méthode d'invariation de la constante qui est utilisée et qui permet de trouver des solutions particulières. Eh bien, on peut, par analogie, mais vous voyez que l'analogie monte par un niveau de constatation qui est plus général. Alors, je reviens pas sur l'intégrale de l'espace vectoriel, les exemples que j'avais donnés avant, historiques ou didactiques, sont encore peuvent s'interpréter en termes d'analogie, bien entendu. Bon, je vais sauter l'intégration polynomiale, qui est pourtant un bon exemple. Un petit mot sur l'axiomatisation ou la formalisation locale, qui est une troisième manière de formaliser en mathématiques à propos de problèmes. Et donc l'idée c'est que quand un mathématicien a un problème à résoudre, eh bien, en fait il essaye de le situer au sein d'une classe de problèmes du même type. Donc là, on voit vraiment la démarche analogique qui apparaît là-dedans. Mais en même temps, il faut avoir une idée sur une classe de problèmes englobants, c'est-à-dire avoir déjà un point de vue un peu surplombant. Alors, un exemple classique, c'est la suite récurrente qui est donnée ici. Donc, très compliqué, un plus 1 égale racine carrée 2, je n'ai pas pu l'écrire sous forme de racine carrée, n plus le gain sur n plus cosinus n plus un. On se dit c'est sans espoir avec un truc aussi compliqué. Et en fait, bien entendu, si on intègre cette suite dans une classe de suite qui est écrite en dernière ligne, un plus 1 égale racine de an plus un n, où la suite an convergera, eh ben, on obtient une situation qui est déjà beaucoup plus simple, parce que plus générale, et qui va permettre de résoudre son problème. Je n'insiste pas là-dessus. Un dernier exemple, c'est l'analogie et unification de méthode. Donc voilà un exemple que j'avais utilisé avec des étudiants comme sujet de mémoire, parce qu'on donnait des mémoires aux étudiants. Le titre, c'était « Une population, un circuit électrique, la ruine des joueurs, une même méthode mathématique ». Et donc l'idée, c'était, on prend ces trois situations, dans des domaines très différents, on les modélise par des équations qui sont écrites ici. Pour les suites, c'est la population. Pour les fonctions, c'est le circuit électrique. Et pour les fonctions de la troisième ligne, c'est le problème de la ruine des joueurs. Et l'idée était d'arriver à faire dégager par les étudiants la méthode commune pour résoudre l'équation, en évidemment la mettant sous forme très générale, à savoir essayer de résoudre AT2 plus BT plus C fois identité, appliquer une fonction U, une suite, à n'importe quoi en fait, T est un opérateur linéaire dans un espace vectoriel. Alors, moi je crois que j'ai plus tellement de choses à faire, donc ça va rentrer. Un petit mot sur l'heuristique, qui a été pas mal développé par Polya, et en partie l'un de ses préceptes, c'est quand vous avez à résoudre un problème, vous prenez un problème plus simple, il ne dit pas de la même catégorie, mais c'est sous-entendu, et vous essayez d'utiliser une analogie. Donc c'est pas intéressant, il y a des fois ça marche, mais en fait, Schoenfeld, qui a beaucoup étudié Polya, s'est rendu compte avec des tas d'exemples que c'était beaucoup trop vague et qu'il fallait être tout à fait précisé, parce que l'analogie peut être avec la méthode ou avec une figure ou avec un calcul. L'idée, c'est qu'il faut restreindre le champ de l'heuristique en construisant des méthodes qui fonctionnent dans un domaine particulier. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la question des méthodes ici. Je dis simplement que, donc je rappelle en haut comment Schoenfeld l'a fait pour montrer que c'était tout à fait insuffisant. Et je signale que des méthodes ont été élaborées et testées par différentes personnes concernant différentes questions. Et souvent, quand on regarde les textes de méthodes qui sont, c'est-à-dire comment réfléchir devant un problème dans un certain domaine assez restreint, eh bien, on ne parle pas souvent d'analogie. Parce que comme on a pris déjà un domaine très resserré, eh bien, l'analogie va y jouer très peu de rôle. Alors, je vais conclure. Je pense que l'analogie a un rôle à jouer dans certains types de conceptualisation et dans la résolution de problèmes. Mais je pense qu'on a vu par suffisamment d'exemples qu'elle peut provoquer des blocages et qu'elle peut être insuffisante pour la résolution. Et en particulier en sciences, ailleurs je ne peux pas me prononcer, et en particulier en mathématiques, je connais un peu mieux, on a de nombreux autres ressorts qui jouent des rôles importants dans le processus de conceptualisation et en résolution de problèmes. Et dans un certain nombre sont d'origine, j'ai envie de dire, épistémologique ou didactique. Alors, voilà des exemples classiques. La recherche d'invariants, la dialectique outil-objet, le changement de cadre, le changement de registre et d'activité de convention, divers types de formalisation, la décontextualisation, tout ça, ce sont des activités qui sont utilisées et propices à la conceptualisation en sciences, et dont on ne peut pas dire qu'elle soit toute pilotée par le phénomène de l'analogie. Donc je pense que ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire tourner l'analogie sur des contenus précis en science. Et je mets un contenu un petit peu en gros, parce que je pense, mais ça c'est, j'ai envie de dire, une des divergences entre la didactique, enfin, certaines didactiques, et la psychologie, c'est que le didacticien ne s'appuie jamais sur des idées de processus pur de la pensée. Il pense que, fondamentalement, ce qui est essentiel, c'est ce sur quoi on pense, le contenu sur lequel on pense, et que si on oublie ce contenu, parler de processus généraux de la pensée a peu de signification pour un didacticien. Et donc, probablement, il s'agit là d'un point de divergence au niveau de la problématisation des disciplines entre la psychologie et la didactique. Et je m'arrête là.